RFJ, il est 12h15.
RFJ Info.
Le journal de Marceline Michon.
Bonjour. Presque aucun examen dans les écoles jurassiennes du poste obligatoire le 14 juin. Une grève nationale des femmes est prévue ce jour-là. La mesure a été prise par le département de la formation et les écoles concernées. Un jurassien dirigera le CHUV dès l'an prochain. Philippe Eckert a été nommé à la direction du centre hospitalier universitaire vaudois. Rencontre avec le docteur de 58 ans dans un instant. Les panneaux de signalisation de la Discorde font encore parler d'eux à Bienne. Les indications en français sont presque inexistantes sur la 5. Réaction des acteurs du bilinguisme dans la cité célandaise. Un ciel généralement bleu dans la région cet après-midi. Il fera jusqu'à 13 degrés à Delémont et Port-en-Truy, 11 à Seignelégier. La grisaille est attendue demain. Bulletin météo complet après le journal. Pour commencer, arrêtons-nous sur une audience qui s'est tenue ce matin à Port-en-Truy. 30 mois fermés, 2 ans de prison avec sursis partiel pour des vols. C'est ce qu'a requis ce matin la procureure Geneviève Bugnon au tribunal pénal dans la cité Brin-Truthaine. Deux Français sont accusés d'avoir mené 2 expéditions en Ajoie lors de l'été 2017. Bilan, plusieurs larcins dans des commerces et des vols de voitures à des particuliers. Nina Beret, vous avez assisté à l'audience.
Un seul prévenu comparaît devant le tribunal aujourd'hui, mais il n'était pas seul lors des faits. Lui et 2 à 3 connaissances sont venus à 2 reprises en Ajoie depuis la France, en juin et juillet 2017. Les voyages ont en commun des vols de marchandises et d'argent dans des commerces et des vols d'usage de voitures chez des particuliers. Le prévenu présent aujourd'hui était le chauffeur du groupe. Il est également accusé de plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière. L'homme aurait notamment mis en danger des policiers pour leur échapper. Le procès ouvert aujourd'hui à Port-en-Truy ne concerne que 2 des voleurs présumés, car les autres n'ont pas pu être inculpés à l'heure actuelle et l'un des prévenus ne s'est pas présenté devant la cour. La procureure Geneviève Bugnon demande au tribunal de retenir la circonstance aggravante de la bande, car selon elle, les hommes se sont organisés à l'avance et l'effet de groupe les a renforcés psychologiquement. Elle note également les nombreux antécédents judiciaires des prévenus. Pour cela, elle requiert 30 mois de prison ferme pour le chauffeur et pour l'autre prévenu, 24 mois, dont 12 avec un sursis de 3 ans. La procureure juge également nécessaire une expulsion de 10 ans du territoire suisse.
Merci Nina, le verdict sera rendu demain matin. S'agrandir pour mieux faire face à l'avenir, l'entreprise horlogère TG Mécanique basée à Seignelégier va tripler la surface de ses locaux selon une information du Franc Montagnard. Le nouveau bâtiment devrait profiter d'une surface de 4 500 m², un agrandissement qui permettra à l'entreprise de satisfaire son carnet de commandes et de compléter son offre selon son directeur. Thierry Guenot indique également que la nouvelle surface pourrait permettre de doubler le nombre de collaborateurs. Ils sont aujourd'hui 25. Il précise qu'aucun engagement ferme n'a été pris et que l'embauche dépendra de la conjoncture. Le canton du Jura anticipe la grève des femmes. Le département de la formation a pris plusieurs mesures en vue de la journée nationale de mobilisation du 14 juin. Comme annoncé lors du dernier Parlement, le ministre Martial Courtais a demandé au centre jurassien d'enseignement et de formation d'annuler dans la mesure du possible les examens prévus ce jour-là. Alexandre Rossé, est-ce que cette requête a pu se concrétiser ?
Oui, le CEGEF, qui réunit l'ensemble des formations post-obligatoires, a pu déplacer la plupart des examens prévus ce jour-là. Quelques-uns ont toutefois dû être maintenus. C'est notamment le cas de ceux prévus depuis longtemps avec des intervenants extérieurs, tels que des professeurs d'université ou ceux qui se font en même temps dans tous les cantons. Les autorités ont souhaité être proactives en vue de cette journée. L'idée était d'anticiper au maximum pour permettre aux personnes qui le souhaitent de participer à la grève du 14 juin sans que cela ne pose trop de problèmes.
Et justement, Alexandre, des mesures sont aussi en réflexion dans les écoles.
Le service de l'enseignement s'est approché des enseignantes pour savoir si certaines souhaitaient participer aux manifestations du 14 juin. Et d'après les sondages, cela ne devrait concerner que peu de monde et les professeurs qui le désirent seront libérés. Le ministre de la Formation, Martial Courtais, a par ailleurs proposé de faire du 14 juin une journée autour de l'égalité dans les écoles pour sensibiliser les élèves à cette thématique. La projection de films évoquant la question est notamment envisagée.
Merci Alexandre. Le CHUV sera placé entre les mains d'un professeur jurassien. Philippe Eckert sera dès l'an prochain le directeur général et le directeur médical du centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Il est aujourd'hui chef du service de médecine intensive adulte et du centre des brûlés. Philippe Eckert a été nommé jeudi dernier par le Conseil d'État du canton de Vaud. Le jurassien de 58 ans était l'invité de l'émission Place publique hier soir sur RFJ. Il nous a raconté ses liens avec le canton dans lequel il ne réside plus depuis longtemps. Philippe Eckert.
C'est d'abord un lien familial. J'ai vécu ma petite enfance jusqu'à l'âge de 10 ans avant de déménager dans le canton de Neuchâtel. Et puis j'avais toute ma famille qui était là, tant dans ma famille paternelle, un grand-père notaire, que ma famille maternelle avec un grand-père qui était d'ailleurs médecin à l'hôpital de Delémont. Et puis au fond, maintenant, c'est vrai que je n'ai plus de famille proche dans le Jura. Je garde surtout un lien affectif très fort avec une société qui me tient très à cœur, c'est la Société des Amis du Château de Soyères. C'est une société qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine et qui a rénové, depuis presque 100 ans, la ruine du Château de Soyères.
Philippe Eckert sera donc à la tête du CHUV dès 2020, un sacré défi puisque l'établissement compte plus de 11 000 collaborateurs. On retrouve Philippe Eckert.
C'est sûr que c'est une lourde responsabilité, mais déjà on n'est pas tout seul. Il y a un tandem avec M. Oliver Peters à la direction générale. Et puis il y a une direction, il y a des chefs de département, des chefs de service. Donc c'est clair que c'est une très grosse institution, mais on n'est pas seul à la gérer. Et puis l'autre élément, c'est que le CHUV est aujourd'hui une institution qui fonctionne très bien. C'est un hôpital qui a eu un magnifique développement ces 10 dernières années dans tous les domaines, que ce soit médical, technologique, rénovation des infrastructures. Donc aujourd'hui, le CHUV fonctionne très bien.
Bienne n'en démord pas, elle veut des panneaux bilingues sur l'A5. Une conférence de presse s'est tenue ce matin pour faire le point sur le dossier de la signalisation du nouveau contournement autoroutier Est. Pour rappel, depuis l'ouverture de la bretelle, les noms des lieux sont uniquement écrits en allemand. La municipalité avait sollicité l'Office fédéral des routes pour les modifier. Une motion avait même été déposée au niveau fédéral par le conseiller national Manfred Buller. Ces tentatives sont toutes restées vaines. Les différents acteurs se sont retrouvés pour faire front commun. Directrice des travaux publics à Bienne, Barbara Schwickert, nous expose les prochaines étapes de cette lutte.
On va relancer une lettre qu'on a signée ensemble, mais aussi encore avec des signatures supplémentaires des différentes personnalités et organisations de la région. Pour Madame Somaruka, parce qu'elle est nouveau maintenant en charge pour le dossier, et puis on veut reprendre contact avec elle et son dicaster. Et puis en plus, on a maintenant aussi le soutien au niveau cantonal par des députés qui vont lancer une motion dans une semaine, c'est-à-dire on veut vraiment avoir encore un soutien plus important pour avancer dans cette cause.
Vous avez donc soumis une lettre à Madame Somaruga, en charge des transports depuis le 1er janvier. Vous attendez quoi de ce changement de conseillère fédérale finalement ?
Qu'elle reprend le dossier, qu'elle ouvre ce dossier, parce que j'ai l'impression pour l'instant ce dossier est fermé. Elle est bernoise, elle connaît ce canton bilingue, canton de Berne, elle a une affinité aussi pour le bilinguisme. Moi, j'attends vraiment d'elle qu'elle cherche cette solution avec nous, ce qui nous a déjà été promis d'ailleurs l'année passée, et puis qu'on peut avancer et réaliser après ces panneaux bilingues, en respectant toujours la sécurité sur l'autoroute.
Barbara Schwickert au micro d'Anthony Montandon. Les acteurs présents ce matin à Bienne ont également réaffirmé que ce n'est pas à la commune de payer pour modifier ces panneaux. Pour eux, l'erreur a été commise par la Confédération qui doit assumer ce changement. Claude Goretta n'est plus. Le cinéaste suisse est décédé hier après-midi à l'âge de 89 ans. Sa famille l'a annoncé ce matin. Il avait tourné La Dentelière avec Isabelle Huppert en 1977. Le cinéaste était aussi réalisateur pour la télévision, producteur et scénariste. Il a tourné en tout une quarantaine de films. Baisse de la TVA sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Le Conseil fédéral a donné son accord pour réduire la taxe de 7,7% à 2,5%. Le gouvernement soutient la motion du socialiste Jacques-André Maire. Le conseiller neuchâtelois déplore que ces produits d'hygiène corporelle féminine ne soient pas considérés comme une première nécessité. Ignacio Cassis veut faire entrer la Genève internationale dans le 21e siècle technologique et scientifique. La Confédération a créé avec le canton et la ville de Genève une fondation chargée de réfléchir à une gouvernance mondiale pour l'intelligence artificielle et les technologies du futur. Ignacio Cassis a convaincu De Carrure de prendre en charge la fonction. L'ancien patron de Nestlé, Peter Brabeck, et l'ancien président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Patrick Ebischer. Les technologies ont-elles vraiment besoin d'un cadre ? Le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis.
Nous pensons qu'il doit être possible de réfléchir avant aux besoins de gouvernance des nouvelles technologies. Si on prend par exemple les drones, on les a réglés en Suisse après qu'on a eu des accidents ou un peu par hasard. Et c'est comme ça maintenant de manière accélérée pour beaucoup de nouveautés. On aura bientôt peut-être des taxis qui voyagent tout seuls, la possibilité d'éditer le patrimoine génétique. Et on sent arriver tout ça, mais il n'y a pas des plateformes qui se dédient à la réflexion de manière structurée et scientifiquement solide à quels besoins de régulation ceci engendre, quels besoins d'interprétation pour l'humanité, pour la Suisse et pour la planète.
Comme elle existe pour le droit humanitaire, imagine-t-on une convention de Genève pour réguler l'usage des nouvelles technologies? L'ancien président de l'EPFL, Patrick Ebischer.
C'est vraiment ça l'idée. Il y a toute une série de choses qu'on voit arriver, que la science produit et qui ont dû, d'une certaine manière, besoin d'être encadrées. Je pense que Genève est l'endroit idéal pour faire ceci parce que vous avez les organisations internationales, les NGOs, mais aussi des grandes institutions académiques qui, avec leur propre réseau, peuvent mobiliser l'ensemble de l'intelligence humaine pour essayer de trouver des solutions. Je crois que la Suisse est bien placée d'abord, et Genève en particulier. Je rappelle juste que le web a été inventé à Genève, au CERN, donc elle a une crédibilité aussi scientifique, mais aussi d'avoir un État qui s'engage sur une chose avec sa neutralité. Je pense que c'est un atout, et je pense que même les grandes compagnies qui sont impliquées dans l'utilisation souhaitent et le désirent, et on le voit aujourd'hui de plus en plus.
La fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator est sur les rails. Elle dispose de 1,2 million de francs par an, versés par la Confédération, la Ville et le canton de Genève. Elle prévoit également de mobiliser des fonds privés.
Il est 12h26 sur RFJ.
Sport.
Le HC de Léman-Vallée connaîtra ce soir son adversaire pour les demi-finales de play-off de deuxième ligue. Tout dépend du cinquième et dernier acte des quarts de finale entre Tramelan et Le Locle. Il se joue ce soir à 20h15. S'il l'emporte, les hockeyeurs Tramelan seraient les prochains adversaires du HCDV. En cas de qualification du Locle, les deux Lémontins affronteraient Sarine Fribourg en demi-finale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi à tous.
On sort les lunettes de soleil et on se la pète grave aujourd'hui puisque aucun nuage n'est dans un ciel qui lui est totalement dégagé. Seul le soleil est présent, un soleil qui sera généreux tout au long de l'après-midi, que ce soit en plaine comme sur les hauteurs. Les températures sont plus que douces puisqu'elles oscillent en ce moment entre 7 et 13 degrés. Il fait 13 à Port-Rentru-de-Lémont-et-Moutier et 11 du côté de Seignelégier. Demain, les conditions vont persister, ces bonnes conditions ensoleillées. Les températures seront un peu en baisse puisque les maximales ne dépasseront pas les 10 degrés.